Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine également, c'est Marianne Paquette qui vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. 184 000, c'est le nombre en moyenne de kilomètres que nos pieds vont parcourir au cours de notre vie. Et pourtant, ben, pour la plupart d'entre nous, on s'en soucie pas. Peu ou pas de nos pieds. Hein. Ils sont cachés dans nos souliers à longueur de journée. Et on ne les voit pas trop, on n'y pense pas. Et pourtant, ils ont une importance qui est capitale pour la santé, pour la mobilité également. Je vais en parler avec William Constant, qui est podiatre. Il va être là en deuxième partie d'émission pour nous livrer des petits trucs pour prendre soin de nos pieds. Mais d'abord, en première partie d'émission, Richard Béliveau, lui que vous connaissez peut-être comme animateur de Campai, également docteur en biochimie, professeur, chercheur, auteur. Je m'entretiens avec lui sur son dernier bouquin dans quelques instants. Merci d'être là, Dr. Béliveau.
Plaisir.
Votre tout nouveau livre, Prévenir le cancer, comment réduire les risques, un ouvrage assez achevé, vous qui êtes chercheur spécialisé en cancérologie, co-écrit avec votre collègue Denis Gingras. Et j'ai envie de vous citer dans l'avant-propos. Quand vous décrivez cette maladie-là, qui est le cancer, qui est la principale cause de décès chez les Canadiens, on parle un petit peu plus du tiers qui en est touché, qui en sera touché au cours de sa vie, la faucheuse du 21e siècle, un ennemi redoutable. On a l'impression qu'elle est inéluctable, cette maladie-là. Et pourtant, quand on lit votre livre, on se rend compte que non. Et c'est un outil formidable parce que non seulement il livre une panoplie de recommandations pour la prévention de la maladie, mais on se rend compte aussi que c'est pas tant que ça une mauvaise loterie, qu'on peut l'éviter. Pourtant, ça nous apparaît comme une fatalité. Comment ça, donc?
Ben, je pense qu'on est terrorisé par le cancer. Moi, je dis toujours, c'est pas le terroriste qui me terrorise, c'est le cancer qui me terrorise. C'est la première cause de mortalité. 40 % des Canadiens vont être touchés par le cancer. Chaque jour, au Québec, c'est 50 personnes qui meurent du cancer. Ça devrait être la chose qui vous inquiète le plus dans la vie. Ce que la recherche a montré dans les 20 dernières années, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, le cancer est une maladie chronique qui prend des décennies à se développer. C'est pas quelque chose qu'on attrape à 50 ans, c'est quelque chose qu'on a développé depuis qu'on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, et on a tous des microtumeurs. La recherche est claire là-dessus. Si vous prenez des gens décédés de crise cardiaque, d'Alzheimer, de n'importe quelle maladie non cancéreuse et que vous faites des coupes de tous les tissus du corps, 100 % de la population a des microtumeurs. 100 % des gens en haut de 40 ans ont des tumeurs dans la thyroïde, 40 % des femmes ont des tumeurs au sein, 40 % des hommes ont des tumeurs de la prostate, 74 % des tumeurs dans le pancréas. On vit avec des microtumeurs parce qu'un corps humain se divise continuellement. On produit des milliards de nouvelles cellules par jour et les cancers chez l'être humain sont monoclonaux. Ils dérivent d'une seule cellule. Donc, si vous produisez des milliards de cellules chaque heure, en fait, vous avez besoin juste d'une cellule pour faire un cancer. Ouais. Moi, ce qui m'étonne comme chercheur spécialisé en cancérologie, c'est pas le fait que 40 % développent des cancers, c'est que ça soit pas 100 % de la population qui développe des cancers. Ouais. Donc, il y a des... La leucémie myéloïde chronique, par exemple, c'est une fraction, moins de 1 % de la population qui fait des leucémies myéloïdes chroniques. Si vous prenez une prise de sang sur n'importe qui sur la rue Sainte-Catherine aujourd'hui, n'importe quelle rue sur la planète, c'est 33 % des gens qui ont la mutation BCR-ABL qui donne la leucémie myéloïde chronique. Donc, il y a un 32,5 % de la population là, qui fait quelque chose qui empêche cette tumeur-là d'évoluer vers un stade cliniquement déclaré. Et c'est ce que la recherche a montré dans les 20 dernières années. Le cancer est une maladie chronique qui a une prédisposition héréditaire modulée par le mode de vie. L'hérédité prédispose et le mode de vie dispose. C'est comme une graine sans terre, sans eau, sans lumière, ne donne pas de plante et ça prend la bonne combinaison très précise selon chaque plante des trois. Il y a des plantes d'ombre, il y a des plantes de lumière, c'est la même chose avec l'hérédité. L'hérédité donne une prédisposition. Vous n'exposez pas cette prédisposition-là de vos gènes au tabac, à l'obésité, au manque d'exercice, à la carence de fruits et de légumes, à la lumière ultraviolet et ainsi de suite. Vous ne permettez pas cette prédisposition-là de s'exprimer. C'est donc un message d'espoir que le livre apporte.
Oui, 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 tout à fait.
Dire aux gens, vous pouvez vous prendre en main, vous pouvez faire quelque chose pour réduire votre probabilité de développer un cancer. Ce n'est pas une assurance, c'est une réduction probabilistique du risque de développer un cancer. C'est ce que les agences de santé publique recommandent. Le livre a un chapitre par recommandation d'une grande agence de lutte au cancer à travers le monde. C'est ce qu'on a fait.
Oui, et vous le dites assez bien, vous êtes un samouraï. Donc, le livre est là pour offrir ces outils-là et pour permettre un petit peu de sentir qu'on a le contrôle, parce que c'est ça qui ressort du livre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai donné des centaines de conférences partout sur la planète, des groupes de lutte au cancer, la Société canadienne du cancer, les agences de lutte au cancer en Israël, aux États-Unis, en Europe, et j'ai toujours la même sensation partout sur la planète. La majorité des patients se sentent démunis, se sentent faibles, ils se sentent vulnérables face au cancer parce qu'ils ont l'impression que c'est une épée de Damoclès au destin inéluctable qui le pend au-dessus de la tête. C'est faux. On a la capacité de faire quelque chose pour réduire notre probabilité de développer le cancer. C'est la raison pour laquelle, sur la couverture du livre, on a mis une photo qui est une modulation d'une affiche de la Deuxième Guerre mondiale qui est une déclaration de guerre à l'ennemi, une campagne qui s'appelle « We can do it ». Et je pense qu'on pourrait reprendre cette expression-là, « We can do it for cancer ». On peut faire quelque chose pour prévenir le cancer, et c'est ça le message du livre.
Le cancer, et je l'apprenais dans le livre, j'avais l'impression que les femmes étaient davantage touchées, et pourtant c'est l'inverse, ça touche davantage les hommes que les femmes, le cancer. Par contre, c'est pas tout à fait... Il ne touche pas le même nombre de personnes partout dans le monde, en Amérique du Nord.
Non.
On est davantage touché.
Oui, en fait, dans notre premier livre, déjà en 2005, on présentait les chiffres. Là. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, les pays industrialisés font en moyenne 4 fois plus de cancers que les normalisés pour l'âge et l'espérance de vie là, que certaines régions d'Asie ou d'Amérique du Sud, par exemple. Et lorsque les Japonais, par exemple, ou les Japonaises qui ont un taux de cancer de la prostate, par exemple, les Japonais, 25 fois inférieur aux Nord-Américains, immigrent en Amérique, le taux de cancer de la prostate est multiplié par 10 fois. À l'intérieur, les Chinoises, on l'a mis dans le livre, les Chinoises, les Coréennes, les Japonaises qui immigrent en Amérique voient le taux de cancer du sein doublé, triplé, quadruplé. Donc, quand votre taux de cancer augmente de 2 fois, de 3 fois, de 4 fois, c'est que c'est le mode de vie. Là. Vous avez gardé vos gènes quand vous changez de pays.
Oui.
Et c'est ça qu'on explique dans le livre. Qu'est-ce qui fait, dans la même population japonaise, le premier tueur au Canada, c'est le poumon. 85% des cancers du poumon, c'est le tabac. Si vous voulez faire quelque chose pour prévenir le cancer, arrêter de fumer, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On panique avec le radon, c'est 0,5% des cancers du poumon, le radon. 85% des cancers du poumon, c'est le tabac. Donc, la première chose à faire pour prévenir le cancer, c'est d'arrêter de fumer. Mais vous prenez une population comme le deuxième, c'est le colorectal. Le cancer du côlon, c'est le deuxième tueur au Canada. Prenez au Japon, en 80, le taux de cancer colorectal est un des plus faibles au monde, à peu près le quart de nos taux, de notre prévalence en Amérique du Nord. En 25 ans, les Japonais se sont occidentalisés dans leur mode de vie. Ils ont multiplié par 700% leur consommation de viande rouge, juste comme exemple. Ce n'est pas des petits chiffres, là, 700% d'augmentation. Leur taux de cancer colorectal a monté de 400%. Et le taux de cancer colorectal au Japon est maintenant rendu le plus élevé au monde, alors qu'il était un des plus faibles au monde en 25 ans.
Parce que leurs habitudes de vie se sont modelées aux Américains.
C'est ça. On américanise la planète présentement. C'est ça le problème. Notre mode de vie occidental, avec sa bouffe industrielle riche en gras, en sucre, en sel, en calories, s'est exporté et pauvre en fruits, en légumes et en substances nutritives, en oméga 3, par exemple. C'est appauvri. Et on exporte à l'échelle mondiale nos mauvaises habitudes et ça a des conséquences catastrophiques. Le régime méditerranéen a disparu essentiellement.
Oui.
Le régime traditionnel de Crète n'existe plus. Okinawa, pareil, qui est un modèle en prévention des maladies cardiaques, a disparu avec l'occidentalisation de notre mode de vie. Et de façon encore plus spectaculaire, et ça, c'est moi-même, j'ai été surpris quand je l'ai écrit. Le dernier chapitre de notre livre, c'est « Survivre au cancer ».
Oui.
Et quand vous faites des études avec des femmes qui ont eu un cancer du sein, des grandes études, vous prenez 2522 femmes qui avaient toutes un cancer du sein. Vous les suivez pendant 10 ans. Celles qui ont une alimentation de type occidental, viande rouge, charcuterie, farine raffinée, ainsi de suite, c'est 360% d'augmentation des décès dus au cancer du sein dans ce groupe-là.
Mm-hmm.
On ne parle pas de petits chiffres, là. C'est pas des... Toutes les femmes sont convaincues que l'allaitement est fantastique pour la prévention du cancer du sein. C'est 2% de protection.
Contrairement aux habitudes de vie,
là, on parle de 360% d'augmentation. pas en primaire, en secondaire, en prévention des récidives. Mm-hmm. Fait qu'imaginez ce que ça fait au niveau de la population. Si on est capable de réduire un cancer qui a été traité en étant très agressif, si on est capable de l'augmenter de 360%, imaginez ce que cette hygiène de vie-là fait en prévention primaire. C'est hallucinant. Ce sont des chiffres très importants.
Ça revient souvent dans votre livre que l'humain est végétal. Finalement, on est fait pour manger des végétaux. Et puis, bon, avec d'autres recommandations, bien sûr, sur les habitudes de vie. Pourtant, j'ai pas pu m'empêcher, Dr. Béliveau, de me dire « Oui, mais j'en connais, moi, des gens de 35-40 ans, des marathoniens, des gens qui mangeaient de façon irréprochable, décédés du
cancer. » C'est une minorité, c'est une minorité. Tout le monde focalise toujours sur ces cas-là. Puis sur le mononcle Armand qui a fumé toute sa vie, qui était agro, qui faisait pas de sport, puis qui est mort dans son lit en souriant à 90 ans, je dis toujours dans mes conférences, vous avez tous le même mononcle Armand au Canada. Parce que moi, je le vois pas, mononcle Armand, des statistiques. C'est des raretés. Il y en a des cas comme ça, mais c'est des raretés. Ce que votre hygiène de vie fait, si vous ne fumez pas, c'est la première chose. Si vous êtes très mince, c'est la deuxième chose. Si vous faites de l'exercice, c'est la troisième chose. Mm-hmm. Si vous mangez beaucoup de végétaux, c'est la quatrième chose, et ainsi de suite. Si vous appliquez ça, vous allez réduire d'environ... dépendant des types de cancer, de 25 à 75 votre probabilité de développer un cancer. Vous décalez dans le temps l'âge de l'apparition des maladies chroniques dans leur ensemble, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, Alzheimer et cancer, qui vont vous frapper en vieillissant. Il y a un décalage de 20, 30 ans, 40 ans entre nos mauvaises habitudes et l'éclosion des cancers, même pour le tabac. Vous commencez à fumer à 20 ans, c'est à 40, 50 ans que vous allez faire votre cancer. Les gens comme ça, qui font des cancers à 35 ans, 40 ans, ils les auraient fait à 15 ans, leur cancer. Ouais. Ils les auraient fait à 20 ans. Moi, j'en ai eu des gens que j'ai connus qui sont morts de cancer à 17 ans. C'est des gens qui ont une très, très mauvaise prédisposition. S'ils ont une hygiène de vie adéquate, ils vont gagner 15, 20 ans avec cette hygiène de vie-là. Si le monsieur dont vous me parlez avait pas couru, avait mal mangé, il serait mort à 16 ans de son cancer. C'est ça, c'est comme ça que c'est ce que les études montrent. L'hygiène de vie dont je viens de parler décale dans le temps. Procrastine. On aime ça, procrastiner, remettre au lendemain. Moi, je pense que le message du livre, c'est procrastiner votre cancer. Vous avez tous des cancers, mais repoussez-le dans le temps le plus loin possible de façon à ce que vous ayez une vieillesse heureuse, que vous ayez le temps de mourir simplement de vieillesse, simplement par... L'affaiblissement des systèmes généraux et non pas d'un cancer fulgurant à 55 ans. Vous savez, aujourd'hui, moi, je joue au tennis avec des messieurs qui ont 84 ans, là, puis ils ont bien du plaisir. Puis c'est pas parce qu'on est à 85 ans qu'on n'a pas de fun dans la vie. Là.
Ils ont écouté vos recommandations.
Mon meilleur ami a 89 ans, puis il est en top shape, puis il fait plein de choses, puis il voyage partout, puis il déborde de vie. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd le goût de vivre. Hein. Donc, si vous appliquez des recommandations comme ça, ce ne sont pas mes recommandations, ce sont les recommandations du World Cancer Research Fund, l'American Institute for Cancer Research, la Société canadienne du cancer. À chaque début de chapitre, on a une recommandation. Oui. Et on a l'organisme qui l'a fait et on explique dans ce chapitre-là en quoi ces recommandations-là sont porteuses d'une réduction statistique de la probabilité de développer un cancer.
On a parlé de plusieurs recommandations jusqu'à maintenant, Dr. Béliveau, alimentation, beaucoup, exercice physique, tout ce qui est en lien avec l'obésité, la sédentarité. Il y a également, et c'est abordé dans votre livre, la prévention du soleil, en fait, au rayon du soleil.
C'est extrêmement important. On l'oublie. Il y a trois cancers qui ont augmenté dans les 40 dernières années. Cancer du sein, cancer du poumon chez les femmes qui ont commencé à fumer dans les années 70. Cancer du poumon a augmenté de façon exponentielle. Deuxième cancer, c'est le cancer carcinome de l'œsophage, qui est directement associé à l'obésité, 400% d'augmentation dans les 30 dernières années. Et le troisième, c'est les cancers de la peau, mélanome, spinocellulaire, basocellulaire, des cancers qui ont explosé dans la deuxième moitié du 20e siècle à cause de nos voyages dans le sud qu'on ne faisait pas avant. On ne se protège pas de crème solaire. Moi, j'hallucine quand je suis dans le sud puis je vois les gens rouges comme des homards sur le bord de la piscine. Là, si vous allez dans le sud puis que vous êtes caucasien de peau, protégez-vous avec la crème solaire. Je joue au tennis l'été, tout l'été. J'ai 90 % des gens avec qui je joue ne mettent pas de crème solaire. Protégez-vous la peau. C'est un des cancers qui a augmenté le plus dans les 50 dernières années, l'ensemble des cancers de la peau et les ultraviolets. On panique avec la radioactivité. Je vous rappelle que les ultraviolets, c'est de la radiation. C'est une forme de radiation électromagnétique. On l'explique dans le livre. Voyez le soleil comme une centrale thermonucléaire et la production d'ultraviolets, c'est une forme de radiation électromagnétique qui peut causer des, qui cause des mutations au niveau de l'ADN. Lorsqu'on veut provoquer des mutations chez des animaux en laboratoire ou dans des cellules, on les expose à des agents ultraviolets. C'est ce que vous faites quand vous vous mettez au soleil. Protégez votre peau, mettez-vous des chapeaux. Évidemment, porter des manches longues l'été, c'est un peu difficile, mais mettez-vous de la crème si vous êtes plus que quelques 10-15 minutes au soleil.
Parce qu'on craint, et ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus, les Wi-Fi, tous nos appareils.
Ça, c'est faux.
Et c'est ce qu'on apprend dans le livre. Ouais.
En fait, il y a deux volets dans le livre. Il y a le volet, les recommandations,
et les
c'est
mythes.
Ça.
On
ça, c'est documenté, mais
oui.
C'est un mythbuster aussi, le livre, parce qu'on détruit des mythes. Le stress n'est pas un facteur de cancer. La pollution est un facteur insignifiant de cancer. C'est vraiment le tabac, l'obésité, le manque d'exercice, la mauvaise alimentation qui sont associés à une augmentation du risque de cancer. On aime ça penser que c'est le stress, la pollution, parce que ça, on ne peut pas faire grand-chose comme ça. Le stress, écoutez, les données, les survivants des camps de concentration nazis, là, ont les mêmes taux de cancer que la population juive de même âge. Alors, on aime ça penser qu'on est stressé, mais vous ne pouvez pas être plus stressé qu'un prisonnier d'un camp de concentration nazi. C'est épouvantable. Les gens n'ont pas fait plus de cancer. Et d'autres exemples comme ça. Il y a plein d'exemples qu'on donne dans le livre. Il faut arrêter de focaliser là-dessus. C'est des gestes très simples que vous pouvez faire au quotidien. Vous bougez un petit peu, 30 minutes par jour. Vous prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur. Vous débarquez de l'autobus. Vous descendez de l'autobus de trois stations avant. Ce petit 30 minutes-là réduit de 25 à 30 % vos cancers du côlon puis du sein, là, puis de l'utérus. C'est des études faites avec des millions de personnes qui montrent ça. Mais on aime ça, nous autres, penser que c'est la pollution puis le stress. C'est ça qui me pousse à écrire des ouvrages comme ça, parce qu'il y a des gestes très simples qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, parce qu'on s'étourdit avec des peurs irrationnelles qui ne sont pas basées sur une réalité scientifique.
Dr. Béliveau, le livre déboulonne des mythes, il aborde des recommandations, diverses recommandations, et également, et ça je trouve que c'est important, il aborde les obstacles à la prévention, il nous amène à développer un sens critique envers les industries, que ce soit du tabac, les industries alimentaires et notre société également, parce que notre façon de fonctionner, de vouloir des résultats rapides et de ne pas toujours envisager la vie à long terme, ça nous amène aussi à peut-être oublier cette prévention-là.
Vous mettez le doigt sur le bobo principal, d'après moi. On vit dans une société de consommation où nous achetons des objets dont nous n'avons pas besoin avec un argent que nous n'avons pas. Le citoyen canadien moyen dépense 160 % de son salaire. Donc, on vit d'une société d'hyper-consommation. Vous arrivez en prévention, vous demandez aux gens de faire quelque chose maintenant pour un bénéfice potentiel dans 30 ans. C'est difficile à vendre. On veut le bonbon tout de suite, même si on n'a pas l'argent pour acheter le bonbon. C'est ça, notre société. Et l'industrie du tabac, l'industrie de l'hyper-transformation alimentaire, l'industrie des suppléments vous vend ça très bien et vous vend des produits que vous consommez avec enthousiasme parce qu'elle vous permettent d'échapper à prendre des mesures concrètes. Je vais faire de l'entraînement à gymnase, ça ne me tente pas le dimanche matin de partir. Des fois, j'aurais envie, là, j'ai eu un bon souper la veille, j'aurais envie de rester tranquille. Chaque fois que je reviens, je me dis, waouh, une chance que je suis allé, je me sens mille fois mieux qu'avant de partir. Mais il faut que je fasse l'effort au départ. On est d'une culture où l'effort n'est pas valorisé. La résilience est un mot qui a été évacué de notre vocabulaire. La santé, c'est ce qu'on souhaite au jour de l'an. C'est la première chose qu'on se souhaite, c'est la santé. Puis le 2 janvier, on oublie toutes nos bonnes résolutions, puis on tombe dans nos mêmes engrenages. C'est ça, il faut se déprogrammer par rapport à nos petites habitudes et revenir simplement à la base, bouger beaucoup et prendre soin de sa santé. Il n'y a rien de plus important que la santé dans la vie. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas rien faire. Donc, on ne devrait même pas faire de compromis, quoi que ce soit, sur aucun des aspects qui sont couverts dans ce livre-là, ce sont des recommandations basées sur des centaines de milliers d'études. On n'est pas dans l'opinion, là. On est dans le factuel, scientifique et médical.
Docteur Béliveau, Richard Béliveau, vous êtes un ambassadeur de la santé formidable. Je rappelle que votre livre « Prévenir le cancer, comment réduire les risques » vient tout juste de sortir suite à « Les aliments contre le cancer, cuisiner avec les aliments contre le cancer » et d'autres ouvrages aussi. Et www.richardbeliveau.org pour en savoir davantage. Merci beaucoup de tenter de réduire la souffrance, la détresse qui est associée à cette maladie-là. Ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Merci beaucoup.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Le pied, les pieds, souvent les grands oubliés de notre corps, 26 petits os qui constituent nos pieds. Je ne le savais pas. Et pourtant, ils nous supportent, ils sont la base, hein, la base de notre mobilité. Mais on s'en occupe pas toujours très, très bien. William Constant, vous êtes podiatre et vous êtes là pour nous livrer quelques petits conseils afin de prendre soin de nos pieds de façon plus convenable. C'est quoi les causes les plus courantes des maux de pied?
Les causes les plus courantes des maux de pied de nos jours, on voit souvent les douleurs au talon, la fameuse fasciite plantaire ou épine de lenoir que les gens parlent énormément. On a aussi beaucoup tout ce qui est douleur de nos jours avec les gens qui courent de plus en plus, douleur à la course, douleur à cause d'un soulier qui serait mal ajusté ou d'un mauvais soulier. Et on a tout ce qui est par rapport aux ongles et à la peau, tout ce qui est verrues plantaires, tout ce qui est ongles incarnés, tout ce qui est corps et callosité aussi qui peut amener beaucoup de problèmes au niveau des pieds.
On peut les prévenir, ces maux-là?
On peut les prévenir, bien sûr. Premièrement, quand on fait un entraînement, d'avoir l'équipement approprié. Donc, pour à la course, d'avoir toujours un bon soulier, avoir le meilleur équipement possible. Ensuite de ça, de prévenir pour tout ce qui est ongles incarnés et pour la peau, donc d'avoir une bonne coupe ouais. d'ongles. C'est drôle à dire, mais commencer par une bonne coupe des ongles.
Mais un ongle incarné, ça fait tellement mal. Hein?
Et peut être si douloureux.
Oui, voilà. Hein? Les enfants qui se plaignent de maux de pied,
oui.
On s'inquiète à quel moment? On consulte à quel moment?
On s'inquiète quand les maux de pied commencent à, je vous dirais, pas handicaper leur vie de tous les jours, mais à devenir assez préoccupants pour qu'ils veulent moins faire leurs activités physiques, mm-hmm. Qu'ils veulent moins aller jouer dehors, par exemple, ou moins aller en éducation physique à l'école. Lorsqu'ils sont très jeunes, si un enfant demande beaucoup d'être pris dans les bras des parents, donc du oui. père ou de la mère, très souvent, ça peut être à cause d'un problème, soit qu'il a mal au pied ou autre, mais ça peut être souvent relié à un problème de pied où l'enfant a tellement, pas tellement mal, mais n'aime pas marcher, n'aime pas se déplacer, donc il va demander tout le temps d'être pris. Mm-hmm. C'est quelque chose, un des premiers signes, dans le fond, là, des maux de pied qui peuvent être indicateurs, et aussi par rapport à la croissance plus tard là, dans oui. la vie de l'enfant, des douleurs de croissance plus. On s'inquiète quand... quand l'enfant se plaint, tout simplement. C'est jamais vraiment alarmant, mais par contre, pourquoi souffrir s'il y a des moyens de consulter un podiatre et de peut-être régler ses maux plus rapidement?
Tout à fait. Bien sûr, quand on pense aux pieds, on pense à chaussures, à souliers. On en a, on en a presque toujours dans les pieds, finalement, oui. des chaussures. C'est important d'en choisir qui nous conviennent. C'est quoi les grandes recommandations là, pour choisir des bonnes chaussures adaptées à nos besoins?
Je vous dirais, d'une façon générale, les grandes recommandations pourraient être d'avoir certainement une légère élévation au niveau du talon. Okay. Étant donné qu'on est toujours habitué d'avoir un soulier dans les pieds, les gens vont sentir souvent plus confortables avec une légère élévation. Un soulier, justement, qu'on est confortable, donc un soulier très petit, très serré, que lorsqu'on l'essaie, on se dit « je ne suis pas certain ». Déjà d'avance, on peut savoir qu'il peut nous causer des problèmes dans le futur. Un soulier aussi, souvent, on va dire « lacé ». Les souliers lacés vont amener un meilleur confort au niveau du pied et peut-être plus ajustable au niveau des pieds. C'est pas tous les pieds qui sont pareils. Les chaussures sont vendues de façon standard. Un soulier lacé va apporter souvent un meilleur confort.
Et les talons hauts?
Les fameux talons hauts. Avec modération?
Oui. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est les verrues plantaires. Ça, à peu près tout le monde a été touché au moins une fois, ou le SRAN, là, si c'est pas nous, c'est les enfants, tout ça, avec les piscines municipales et tout ça, ça se prévient comment?
Les verrues plantaires, ça se prévient, bien, premièrement, en portant des sandales dans les endroits publics. Jamais se promener nu-pied dans les endroits publics. Tout ce qui est piscine, les piscines à l'extérieur aussi, souvent pendant l'été, on va voir beaucoup d'augmentation des cas de verrues plantaires. Dans les gymnases, à l'école, souvent, on peut se promener nu-pied. Tout ce qui est cours de danse, cours de karaté, souvent aussi, c'est d'avoir peut-être un petit bas, si possible, pour empêcher que le pied soit directement sur le plancher, étant donné que la verrue, c'est un virus qui se développe au niveau de la peau. Mm-hmm. Faut qu'on soit en contact avec le virus pour justement le développer. Donc, plus on limite les contacts, plus on a de chances de garder un pied sain.
Et est-ce que la seule façon de traiter la verrue, c'est, bon, vous savez, là, la brûler, là, ce qu'on entend souvent et qui nous donne des frissons dans le dos parce qu'on a l'impression que ça doit faire tellement mal?
Non, de nos jours, il y a des nouvelles technologies qui peuvent permettre d'enlever les verrues. Il y a des produits un peu plus chimiques, je dirais, qui feraient des réactions au niveau de la peau pour mécaniquement donc enlever une couche de peau, enlever la verrue. Même le laser, de nos jours, peut servir à enlever, à brûler la verrue en tant que telle. Mm-hmm. C'est sûr qu'il n'existe pas nécessairement, de nos jours, une façon sans douleur, sans sensibilité d'enlever une verrue, mais il existe beaucoup de moyens différents là, de nos jours que juste l'azote et la brûler en tant que telle.
William Constant, on a parlé du soin des pieds des enfants. Mais pour les personnes âgées, est-ce que c'est... Bon, on sait qu'en vieillissant, les soins, les pieds, bon, se fatiguent d'autant plus. Est-ce que les besoins sont différents pour les personnes âgées?
Les besoins sont souvent différents parce que les personnes âgées, au fil du temps, vont avoir des ongles souvent un peu plus épais.
Ah oui.
Et aussi vont perdre un petit peu de leur gras naturel sous le pied. Donc, souvent, on va entendre le fameux « j'ai l'impression de marcher sur mes os ». Eh bien, c'est un petit peu ça, en fait. En diminuant le gras sous les pieds, les gens vont marcher directement sur leurs os. Ils vont avoir tendance à développer plus de douleurs, soit douleurs articulaires, douleurs aussi au niveau de la peau. Donc, avec la pression, on va amener les corps, les callosités. Donc, c'est des choses qui peuvent être plus fréquentes chez les personnes âgées.
Et pourquoi non, ça fait ça?
C'est un phénomène naturel au fil du temps.
Okay.
Je vous dirais, la peau perd son élasticité, le pied, justement, perd de son gras, et c'est les résultats qui va en suivre.
Et les orthèses plantaires, ça sert à qui?
Les orthèses plantaires. Deux types d'orthèses plantaires, en gros. Les orthèses plus accommodatives et les orthèses plus de correction. Donc, les gens qui ont des douleurs, des fasciites plantaires, un problème avec leur biomécanique, leur démarche, on va vraiment aller vers une orthèse qui va venir aider à soutenir leur démarche, soutenir leur mécanique. Chez les gens qui ont plus besoin de plus de coussins, justement, on va aller vers une orthèse accommodative pour pouvoir les aider à faire leurs activités de tous les jours.
Et pour en savoir plus, www.ordredespodiatres.qc.ca. C'est la première fois que je parle à un podiatre de toute ma vie. William Constant, vous avez été mon baptême.
Mais ça m'a
merci
fait plaisir.
Merci beaucoup. C'était fort intéressant.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à Jean-Sébastien de la Liberté qui est de retour parmi nous aujourd'hui derrière la console. Un plaisir de te retrouver, mon cher. C'était Marianne Paquette au micro. On se retrouve demain. Je serai là toute la semaine pour vous accompagner avec C'est bon pour la santé. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye-bye.